Est-ce que nous n'apprions pas des leçons? Mais le Seigneur a beaucoup de patience avec chacun de nous. Nous devons chaque fois réapprendre des leçons nécessaires pour l'approfondissement de notre foi. Il n'y a jamais une limite à la patience du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Nous arrivons souvent à la limite avec nos enfants, n'est-ce pas? Mais ça suffit maintenant, tac. Le Seigneur a plein de patience. Si nous n'avons pas compris, il recommence encore. Regardons les disciples. Combien de fois le Seigneur a dû répéter ce qu'il avait déjà dit? Plein de grâce et plein de patience. Ils n'ont pas d'eau. Et ils commencent à murmurer. Et le peuple, verset 3, contesta avec Moïse et ils parlèrent, disant que, etc. Il y a trois choses qu'ils disent. Trois choses affreuses quand on réalise ce qu'ils disaient. Alors lisons ensemble. Qu'est-ce qu'ils disaient? Premièrement, que n'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'Éternel? Ils pensent au chapitre 16, où Corée et ses amis se sont rebellés contre l'Éternel. Ils ont tous péri. Alors maintenant, par grâce, le reste du peuple d'Israël avait été sauvé, gardé. Et maintenant, il dit, si seulement nous avions aussi péri avec ces rebelles. Incroyable. Il accuse Dieu d'avoir usé de la grâce vis-à-vis de leurs âmes. Est-ce que c'est possible? Deuxième chose, verset 4. Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans ce désert pour y mourir? Nous et nos bêtes? Mais mes chers amis, dans le chapitre 14, vous avez refusé d'y entrer. Et maintenant vous accusez Dieu et Moïse de ne pas se laisser entrer dans le pays. C'est le cœur de l'homme. C'est un mensonge. Est-ce que c'est possible pour des enfants de Dieu de mentir? Est-ce qu'une exagération, ce n'est pas aussi un mensonge? Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui entre frères et sœurs? Qu'on ne parle pas exactement la vérité, on entend quelque chose et on le passe par téléphone, et puis ça passe dans une assemblée, et tout le monde le croit. Au lieu, si on entend quelque chose qu'on dit d'une personne, d'aller à la source, d'aller vers cette personne et lui demander personnellement, est-ce que c'est vrai? On ne le fait pas aujourd'hui. On le croit, ce qu'on dit d'une telle ou telle personne, d'une telle ou telle situation, et on juge. C'est la déshonnêteté. Et vous ne pensez pas que le Seigneur n'écoute pas ce que les frères et sœurs disent entre eux, dans quatre murs, dans leur chambre, ou entre frères et sœurs. J'en suis sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Quatrièmement, verset 5. Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce mauvais lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. On n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Et il n'y a pas d'eau pour boire. Si seulement, Moïse, tu nous avais laissés dans l'esclavage des Égyptiens. Impossible. Ils préféraient l'esclavage dur des Égyptiens que la liberté pour être le peuple de Dieu sous sa direction. Est-ce que c'est possible? Peut-être sans l'exprimer ainsi, qu'il y en a des enfants de Dieu qui préfèrent rester dans leur état d'esclavage et de ne pas réaliser la plénitude de la liberté qui est en Jésus-Christ. Se laisser lier par des lois et des règles, des traditions qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Des légalistes, là où la parole ne dit rien. L'homme invente des règles et des traditions. Aujourd'hui, parmi nous, Ils sont loin de la pensée de l'Éternel pour eux. Tout ce qu'il avait préparé pour eux dans ce pays de Canaan, ils méritaient bien d'être punis. Si c'était notre cas comme parents, et nos enfants avaient dit des choses comme ça, pas apprécier ce que nous faisons, etc., etc., bien, on ressent ça, c'est très mauvais. Et un enfant mérite d'être discipliné quand même. Est-ce qu'il ne méritait pas non plus d'être discipliné? Mais qu'est-ce que nous voyons? Les versets 6 à 8. Et Moïse et Aaron vinrent de devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation et tombèrent sur leur face. Ça, c'est bien ça. Dans le chapitre 16e, nous lisons trois fois qu'ils tombent sur leur face. Ils ne disent rien, ils ne se défendent pas. Ils sont là, dans l'humiliation devant l'Éternel. Et ils laissent l'Éternel répondre à ces accusations. Est-ce qu'on le fait aussi aujourd'hui, chers amis? Si on est accusé de quelque chose, est-ce qu'on se défend? Est-ce qu'on écrit un fax, ou une lettre, ou une brochure, pour se défendre? Ou est-ce qu'on laisse le Seigneur nous défendre? Tomber sur leur visage. Et là, c'est l'Éternel qui les défend. Ils sont sur leur face, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Ce n'est pas non plus la première fois que la gloire de l'Éternel est apparue. Dans le chapitre 16, là aussi la gloire de l'Éternel est apparue mais en jugement terrible. Mais ici, ce n'était pas pour le jugement, mes chers amis. Ici, c'était une démonstration de la grâce de Dieu que la gloire de l'Éternel a apparu. Il ne voulait pas, le premier but de Dieu n'était pas pour exposer leur incrédulité, mais le premier but, il me semble, c'est que quand l'Éternel voit toute leur incrédulité, leur manque de reconnaissance, leur obstination, Dieu voyait Christ sur la croix. Il a porté toutes ses iniquités, toutes nos désobéissances, toute notre ingratitude, tous nos péchés. Dieu voyait Christ là, élevé sur la croix, mais aussi monté dans le ciel, ressuscité, à la droite de Dieu, l'œuvre accomplie, le grand souverain sacrificateur pour nous, qui prie, qui intercède pour nous. C'est cela que Dieu avait devant lui. Et il voulait donner une démonstration de cela. Parce que dans le chapitre 17e, il y a le choix de l'Éternel pour un souverain sacrificateur, Aaron. Maintenant, Dieu va donner une démonstration de ce que c'est que c'est. Cela, d'avoir un sacrificateur qui intercède. Voilà les instructions de l'Éternel. Verset 7. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, prends la verge. Quelle verge? Parce qu'il y en a deux. Il y a la verge de Moïse, qu'il a employée en Égypte avec les jugements, les 10 jugements sur le peuple d'Égypte. Mais il y a aussi la verge d'Aaron. Et la verge d'Aaron était où? Se trouvait où? Dans le sanctuaire. Devant le sanctuaire. Et alors l'Éternel a dit, prends la verge et lions ce verset avec le verset 9. Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel. C'est donc la verge d'Aaron. Parce que la verge de Moïse, c'est un type de la loi. Mais il ne s'agit pas ici de la loi, il s'agit ici de la grâce. La grâce qui vient par Christ, par sa mort, sa résurrection, et le fait qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, en type ici. Prends la verge et réunis l'assemblée, verset 8. Toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée à leurs bêtes. Quel immense privilège pour Moïse et Aaron. Ils doivent donc maintenant représenter le cœur de l'Éternel. Tu, deux fois l'Éternel dit, tu leur feras sortir de l'eau et tu donneras à boire. Alors Moïse va donc représenter le cœur de l'Éternel. Est-ce qu'il a réussi? Ni Moïse, ni Aaron étaient à la hauteur de la grâce de Dieu pour comprendre le cœur de Dieu. Même ses conducteurs, ah oui, l'homme n'est pas parfait. Mais en dépit de cela, même si Moïse et Aaron ont fait faillite, ont chuté, l'Éternel a quand même béni son peuple. Nous voyons cela. Il fallait donc se tenir à côté du rocher, pas non plus la première fois. En Exode 17, et je reviens, en Exode 17, nous lisons encore dans le verset 6, où l'Éternel donne des instructions, il y avait donc aussi, il n'y avait pas d'eau, et l'Éternel dit à Moïse dans le verset 6, « Voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher en Horeb, et tu frapperas le rocher. Tu frapperas le rocher. » Et la différence entre le roc ou le rocher en Exode 17 et en Nombre 20 dans la langue hébreu, c'est frappant. En hébreu, la signification de rocher en Exode 17, ça veut dire tsur, qui veut dire aigu, comme une épée qui coupe. Qui coupe. Un type de jugement. En Exode 17, donc, c'est un type de jugement que Christ a subi sur la croix du calvaire. Mais le jugement n'est pas répété deux fois. Il y a une seule fois que Christ a été mis à mort, qui a porté le fardeau de nos péchés. Pas une deuxième fois. Dieu est fidèle et juste. Il ne demande pas deux fois. Christ s'est donné. Donc maintenant, en Nombre 20, le mot hébreu pour roc ici, c'est cela. Ça veut dire élévation. Élévation. Christ est mort, mais il a été élevé. Et nous trouvons ce verset merveilleux en Ésaïe 53. En Ésaïe 52, c'est la page 514. Exalté et élevé et placé très haut. Voilà la signification du Nombre 20. La résurrection, l'ascension de Christ qui s'est assis à la droite de Dieu dans les hauts lieux. L'œuvre accomplie. Il est là maintenant comme le souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Voilà ce que Dieu voulait donc manifester. Et Moïse, obéissant, verset 9, il prit la verge de devant l'Éternel. La verge d'Aaron, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et il leur dit, écoutez, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Qu'est-ce que nous pourrions penser? Est-ce que Moïse était convaincu ou pas convaincu que Dieu pouvait faire ce miracle? En effet, je crois que Moïse n'avait pas cru. C'est l'Éternel qui l'a dit dans le verset 12. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru. Ils se tenaient là devant le rocher. Et au lieu de croire que l'Éternel est capable de le faire sortir, l'eau du rocher. Il s'est fâché. Il a perdu sa patience, cet homme humble et doux, plus qu'aucun autre homme. Et au lieu de parler à ce rocher, il l'a frappé deux fois. Vous voyez pourquoi ce péché de Moïse est tellement sérieux? Je dois confesser que souvent j'avais pensé dans le passé, c'était quand même dur qu'il a été défendu d'entrer dans le pays de Canaan pour un petit péché comme ça. Mais mes chers amis, ce n'est pas un petit péché. C'est manque d'avoir représenté le cœur de Dieu. L'égal pour aujourd'hui, c'est que de nier la divinité de la personne de Christ aujourd'hui. De dire des mauvaises choses, de fausses doctrines quant à la personne de Jésus-Christ. De tordre la pensée de Dieu. Ça, c'est très grave. Et c'est ainsi que, comme je viens de dire, que Moïse et Aaron n'ont pas été sur la hauteur du cœur de Dieu, sa pensée pour son peuple. C'est comme il disait à ce peuple que Dieu ne veut pas vous donner de l'eau. Parce que nous devons faire sortir de l'eau pour vous. Et ainsi, ils ont frappé. Moïse a frappé le rocher et Dieu a empêché l'eau. Parce qu'il y avait désobéissance? Non. En dépit de cela, Dieu avait quand même donné de l'eau, en abondance. Je peux m'imaginer, je me trouve là avec ce peuple d'Israël, 2 millions, avec leurs bêtes. Et là, sur la hauteur, on voit Moïse et Aaron à côté de ce rocher. Et Moïse frappe le rocher, et l'eau qui sort, et tout le monde dit, « Ah, quel homme de Dieu merveilleux !» Il l'a fait encore une fois. Quel homme béni, oh Moïse, tu es un grand homme. Mais il ne savait pas, le peuple, que là, Moïse était désobéissant. Parce qu'il voyait. Il voyait la bénédiction. Donc, s'il y a des bénédictions, le serviteur doit être en communion avec le Seigneur. Pas forcément, mes chers amis. Pas forcément. Dieu bénit sa parole. Et si son serviteur est désobéissant, mais qu'il annonce la parole, Dieu bénit sa parole. Même si son serviteur est désobéissant, il faut réaliser cela. Dieu est souverain, il n'a pas besoin de Moïse. Il n'a pas non plus besoin d'un frère, d'une sœur, d'une assemblée, des frères. Il n'a pas besoin de nous du tout. Il est souverain. Il arrivera à son but, avec nous ou sans nous. C'est à nous de décider. Est-ce que nous voulons être des instruments de grâce en représentant le cœur de grâce de Dieu devant les âmes autour de nous, dans la douceur et dans l'obéissance, la soumission à sa parole? Bien, nous serons des canaux de bénédiction. Et sinon, il nous met à côté et il nous dépasse, il prend les autres. Voilà l'eau en abondance. Et l'assemblée but et leurs bêtes. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru. C'est deux fois que Moïse a frappé le rocher. La mort de Christ n'est jamais répétée comme je viens de dire. Il y a des versets en Hébreux 10 et verset 12. Ayant offert un seul sacrifice, il s'est assis. Verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait. Une seule. Voilà la gravité de ce péché de Moïse. C'est pour cela qu'il a été donc empêché d'introduire ce peuple, cette congrégation dans le pays que je leur donne. Verset 12. Nous ne voyons pas que Moïse a murmuré. Il s'est soumis. Et je pense aussi que voilà encore Dieu dans sa miséricorde. Plus tard, il a permis à Moïse quand même de voir depuis le mont Nebo toute cette vallée. Et même plus tard encore avec le Seigneur Jésus, il se trouve dans le pays de Canaan. Avec Élie aussi. Et Moïse, le Seigneur Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce. Voilà, l'ennemi est toujours là. Il y a eu une abondance de rafraîchissement qui sortait du rocher et l'ennemi est là pour empêcher l'avancement du peuple de Dieu. Mais je ne vais pas beaucoup dire là-dessus. Même si Moïse et le peuple d'Israël avaient désiré, dans le verset 17, de passer par le chemin du roi, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu avait des leçons à les enseigner, qu'ils ne pouvaient pas apprendre dans ce roi facile, dans ce chemin facile, le chemin du roi. Et il fallait donc qu'ils passent par un autre chemin. Ils ne se sont pas occupés des Édom parce que Dieu les a défendus d'attaquer Édom, verset 21, et Israël se détourna auprès de lui. Et cette section 22 à la fin, c'est très touchant. Avec toutes ses faiblesses, Aaron était quand même encore un type du Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les faiblesses, mais quand même. Quand nous voyons ce qui se passait avec Aaron là sur la montagne d'or, et avec nos comparaisons entre lui et le Seigneur Jésus, nous voyons des choses très frappantes. Aaron monte la montagne d'or. Le Seigneur Jésus montait sur mon calvaire. Et là, il a subi un mort subite, pourrais-je dire, soudain. Aaron doit mourir. C'est annoncé sa mort. Il n'y a pas de murmure de ses lèvres. Le Seigneur savait aussi, le moment est arrivé pour qu'il soit crucifié là sur le mont Calvaire. Il avait été dérobé, Aaron. On a pris ses vêtements. On a fait la même chose avec le Seigneur Jésus. Mais Aaron a dû subir tout cela à cause de ses propres péchés. Tandis que le Seigneur Jésus a subi tout cela, cette honte, ce déshonneur, à cause de nos péchés. Voilà la grande différence. Et là, se trouve Moïse sur la montagne d'or. Dépouillé Aaron, il y a deux personnes présentes, Moïse et Éléazar. Quand le Seigneur Jésus crucifié sur le mont Calvaire, il y avait aussi deux brigands, deux meurtriers, l'un à gauche, l'autre à droite. Et nous voyons que Aaron a été pris la mort. Mais Éléazar a continué le service sacerdotal. Mais ce n'est pas un sacerdotal, une sacrificature éternelle. Nous avons un sauveur qui est notre grand souverain sacrificateur, qui est là chaque instant pour nous, qui prie pour nous, afin que nous ne péchions pas. Et si quelqu'un a péché, il est un avocat auprès du Père, il prie pour toi et pour moi. Quel bonheur qu'il y a une telle plénitude de grâce qui est là pour nous. Et nous devons aussi, dans notre comportement, manifester cette même grâce, cette même amour, cet amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions donc manifester le cœur du Seigneur Jésus dans notre comportement.